صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه ليلة 19 من شهر جماد الآخرة عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في الدرس الثاني من قراءة وشرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 23 février 2019 et nous entrons par la permission d'Allah dans le deuxième cours de l'étude du livre intitulé, d'après bien entendu une traduction rapprochée, Les pratiques de l'ère pré-islamique, par l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Nous nous sommes arrêtés après avoir pris une introduction montrant l'importance d'apprendre les agissements, les actions, les paroles, les pratiques relevant de l'ère pré-islamique afin de s'en épargner ou de s'en voir épargner. On a vu également qu'est-ce que al-jahiliya, l'ère pré-islamique, et que cela revient à l'ignorance dans laquelle étaient les gens de l'époque. Ils avaient tout un tas de pratiques, de paroles mauvaises contre lesquelles nous a mis en garde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en les connaissant justement que le musulman les évite, y prend garde et met en garde autrui contre ce genre de choses. Nous avons vu que la première de ces choses est le fait de prendre un intermédiaire dans l'adoration et de ne pas solliciter Allah directement, mais plutôt de passer par un être qu'il a créé. Wal'iyadu billah. Et que cette action relève du polythéisme majeur excluant la personne de l'islam. Et c'est sur ce point-là que nous nous sommes arrêtés après l'avoir conclu. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Al-mas'alatu thaniya » La deuxième question, le deuxième point relevant d'une pratique de ces gens-là, « Al-mas'alatu thaniya »« Annahum mutafarriquna fi dinihim »« Kama qala ta'ala » كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم ويرون أن ذلك هو الصواب فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que la deuxième question est le fait que ces gens-là, ceux de l'ère pré-islamique, dont les comportements sont mauvais, étaient divisés en matière de religion. Ils étaient divisés dans leurs pratiques, tout comme ils étaient divisés dans leurs croyances. Après que l'auteur, rahimahullah, a cité la première des pratiques, qui est le polythéisme, il est venu à citer ce point extrêmement grave et important, qui est la division en matière de religion. Ces gens-là n'ont su trouver quoi les réunir comme croyance. Et lorsque la croyance n'est pas identique chez les gens, le chemin n'est pas le même, naîtra la division, la dissension. Ces comportements adoptés par les gens de Al-Jahiliyyah, de l'ère pré-islamiques qui avaient des dogmes, des croyances différentes les unes des autres. De même pour leurs pratiques religieuses. Et la seule chose qui réunit les gens et amène à concrétiser l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala de l'union, c'est la guidée et la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, de l'époque pré-islamique, ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs divinités. Pour cette raison, est née chez eux la dissension, car chacun avait son propre chemin, sa propre croyance, ce qui les empêchait de se mettre d'accord et de se réunir. De même, lorsque les gens n'ont pas la même croyance, la même compréhension de leur religion, la même adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, la même sunnah qui est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pourront jamais s'unir. Même si en apparence, ils ont l'air de l'être. En réalité, ils sont comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta, dhalika bi annahum qawmun la yaqilun. » Tu les penses unis, alors que leurs cœurs sont complètement désunis. Il en est ainsi, car ils sont des gens qui ne raisonnent pas. C'est donc la guidée et la vérité qui guident vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là étaient divisés tant bien en matière de religion qu'en matière mondaine, même dans les choses de la vie d'ici-bas, n'ayant pas de lien avec la religion, ils étaient divisés et chaque parti s'enflait d'orgueil pour ce qu'il portait avec lui comme croyance. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset cité par l'auteur, rahimahullah, « Kullu hizbin bima ladayhim farihun » Chaque parti est joyeux de ce qu'il a en lui. Chacun est content de ce qu'il suit, est joyeux de ce qu'il suit. Le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit وهي أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم وصفتهم التفرق والاختلاف. Les gens de l'époque pré-islamique avaient un signe distinctif par lequel ils étaient connus et décrits, la division et la divergence. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ولا تكونوا من المشركين. Et ne sois pas du nombre des polythéistes. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Ceux qui ont divisé leur religion et ont formé différentes voies ou alors différents partis. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Chacun des partis éprouvait de la joie pour ce qu'il avait en lui. Le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit فَدِينُ اللَّهِ وَاحِدٍ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ. La religion d'Allah est une seule pour toutes les créatures. مِنْ يَهُودِيٍ وَنَصْرَانِي وَوَثَنِيٍ وَعَرَبِيٍ وَعَجَمِيٍ. Que ces gens soient chrétiens, juifs, idolâtres, arabes ou non-arabes. فَدِينُ اللَّهِ وَاحِدٍ. La religion d'Allah est unique. C'est l'adoration d'Allah seul et sans associé. Mais il nous rappelle, hafidhahullah, que ces gens-là ont divisé leur religion. Ils ont constitué différents groupes dont chacun éprouvait de la joie pour la croyance à laquelle il adhérait. Et on le trouva aussi chez les idolâtres arabes de l'époque à laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé. Ils n'avaient pas la même pratique religieuse. Certains parmi eux adoraient le soleil, d'autres la lune, d'autres les anges, d'autres les gens pieux, et j'en passe. Ils étaient donc divergents et donc divisés à cause de cette divergence dans la base qui est la croyance. Et si les musulmans, ne sont pas en accord dans la base qui est la croyance, cela va apparaître les effets néfastes de cette divergence intérieure vont apparaître dans les membres, dans leur extérieur. Voici l'état des gens d'autrefois, de l'époque de l'ère pré-islamique, qui avaient en eux cette caractéristique par laquelle ils étaient connus. Ils étaient divisés. Rien n'a pu les réunir, ni les rassembler. Pas même la monnaie, les biens mondains, l'intercession de l'un pour l'autre, ni rien de cela. Et ceci jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel Allah a réformé les cœurs par la croyance authentique. Et lorsque les gens ont eu cette croyance authentique, ils ont mis fin à cette scission, à cette dissension, à ces divergences, et ils se sont tous réunis derrière une parole, « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Et le devoir qui incombe à tous les hommes, les djinns aussi, est de suivre cette religion, qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle de ne l'adorer, seul, de n'adorer que lui, seul et sans rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Et la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le dit le cheikh Salih al-Fawzan, وَهَذِهِ هِيَ الْعِبَادَةِ وَهِيَ تَوْقِفِيَةِ. Cette adoration dépend des textes. On ne peut pas, nous, venant de nous-mêmes, avoir des idées sur des adorations ou vouloir instaurer, non. L'adoration est arrêtée au texte. On ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala que d'après ce qu'il a prescrit et légiféré, que d'après ce qui a été enseigné et transmis par son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Les gens n'ont pas le droit, en matière de religion, d'y ajouter quoi que ce soit, ni d'y enlever quoi que ce soit. Sinon, ils s'égareraient, ils se diviseraient, et alors ils auront entre eux une dissension, comme cela fut le cas des gens de l'époque pré-islamique. Et Allah Azza wa Jal a blâmé ce genre d'agissement en disant « Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah » ou bien ont-ils des associés qui leur ont légiféré en matière de religion ce qu'Allah n'a pas autorisé? C'est un blâme d'Allah Azza wa Jal qui s'adresse à ces gens-là. Allah n'a pas autorisé ce genre d'action qui ne trouve pas ses sources dans la parole d'Allah Azza wa Jal et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous a donc interdit de ressembler dans cette caractéristique aux gens de l'ère pré-islamique, qui est celle de la division. Mais il nous a plutôt ordonné de suivre une seule et même religion, la religion de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Salah al-Fawzan, hafidahullah, nous dit que ces gens de l'époque pré-islamique ont divergé et se sont divisés, non pas par ignorance, mais plutôt après que les preuves leur soient parvenues. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset cité par l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il nous dit, Naam, wala takunu kalladhina tafarraqu, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, wakhtalafu, et ont divergé, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, après que les preuves leur soient venues. On ne doit pas diverger après que les preuves nous soient venues. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il ne nous est pas permis de s'obstiner ou de persister dans une opinion que l'on s'est faite ou que l'on veut suivre après que les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala soient parvenues. Et dire après que nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est faux. Allah Azza wa Jal a interdit ces gens-là. Et le sieur Salih al-Fawzan nous dit: وَلَمْ يَكُنْ هَذَا عَنْ جَهْلٍ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ هَوَى. cela n'a pas été de leur part le fruit d'une ignorance venant d'eux, mais plutôt le suivi des passions, car les preuves leur sont venues. Wallahu al-musta'an. Allah Azza wa Jal a donc interdit aux musulmans d'emprunter cette voie relevant des pratiques pré-islamiques. Quelle est cette voie? Lorsque la preuve apparaît, la personne s'obstine dans le chemin qu'elle a choisi de suivre. هذه جاهلية. C'est une voie relevant de l'ignorance pré-islamique. Le cheikh nous dit نهى الله هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الجاهلي. Allah a interdit à cette communauté de suivre cette voie jahilite, c'est-à-dire relevant de l'époque pré-islamique d'ignorance. وأمرهم أن يتمسكوا بالدين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. Il leur a ordonné de suivre la religion qu'il a révélée à son messager صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سار عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est sur ce chemin qu'ont marché les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام parmi les quatre califes bien guidés. Et c'est sur cette religion qu'il est obligatoire de s'accrocher jusqu'à l'avènement de l'heure. Et lorsqu'il y a divergence dans un sujet quelconque, peu importe sa grandeur ou non, ce qu'il faut appliquer, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Et quand vous divergez dans une quelconque affaire, renvoyez-la à Allah et au messager. إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, renvoyez-la à Allah, au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, aux règles émanant d'Allah, ayant été légiféré par Allah. Qu'est-ce que nous dit le Coran concernant la manière d'agir dans ce désaccord entre nous? Que ce désaccord relève du dogme, l'aqida, ou des actions, et même des interactions, al-mu'amalat, la vente, le commerce, et tout, toute chose. Il a rasoul au messager, sallallahu alayhi wa sallam, au messager, c'est-à-dire il a sunnati, c'est-à-dire à sa sunna, de regarder qu'est-ce qu'il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le remède à ce mal et à ce trouble qui a touché les gens de l'époque pré-islamique et qui ne cesse d'atteindre bon nombre de ceux qui disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna » Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de ces gens-là voyait que la force, la fierté résidait dans le fait de se cramponner à leur opinion, même si les preuves apparaissaient claires comme le soleil en plein jour. Pour eux, c'était une faiblesse de délaisser leur opinion, leur croyance, leur idéologie, leur tendance. Cela relève de la pratique de la jahiliya. Cette action est de la jahiliya. Wallahu musta'an, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors venu avec la clé de l'union. Il est venu avec la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, et cela est un des plus grands fondements auxquels il a appelé. Min a'zami ma da'a ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ijtima'u fi ad-din. L'union dans la religion. Et lorsque l'on parle d'union dans la religion, al-ijtima'u fi ad-din, laysa ma'naha ijtima' al-abdan ou Al-Kafra ou Al-Adad. Ce qui est voulu n'est pas l'union physique ou le fait de former un grand nombre, si bien qu'il est impressionnant à la vue de celui qui regarde. Non. Ce qui est voulu, Al-Murad ou Al-Ijtima' Al-Haq, Al-Qur'an, Al-Sunnah. Ce qui est voulu, c'est l'union dans la vérité, dans le Qur'an et la Sunnah, والذي يقتضي رد الباطل وكل ما يخالف الكتاب والسنة. Et qui sous-entend et implique de manière inévitable le rejet de tout ce qui contredit le Coran et la Sunna. Si une personne disait de crainte que l'on diverge, je me tais sur le faux. Et cette personne voit que par son silence et le fait de ne pas avoir mis en garde contre le shirk, contre la bid'a, contre le mal, le kaba'ir, contre toutes ces mauvaises choses, elle se dit, je n'ai pas parlé. Résultat, ils sont tous restés avec moi. Et Allah nous a ordonné l'union. هذا كلام باطل. Ça, c'est une parole qui est fausse. Parce que cette union est en réalité la désunion. C'est de celle-ci qu'Allah Azzawajal a dit, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Tu les crois unis et leurs cœurs sont divisés, désunis. فَالْمَسْأَلَ يَجْتِمَعُ الْقُلُوبِ عَلَى الْحَقِّ وَالسُنَّ وَالْهُدَى. La question est la réunion ou l'union des cœurs dans la vérité, dans la sunna, dans la guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Ceux qui ont divisé la religion et ont formé différents groupes, tu n'as rien à voir avec eux. Allah Azza wa Jal a innocenté son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appartenir à l'un de ces gens-là, ce qui implique qu'eux-mêmes n'appartiennent pas au prophète alayhi salatu wa sallam, ni au fondement de l'islam et à sa guidée. Allah Azza wa Jal lui dit, ces gens-là n'ont rien à voir avec toi et toi tu n'as rien à voir avec eux. Pourquoi? Car ils ont divisé leur religion, chacun a suivi sa voie, sa croyance, et cela a été interdit par Allah. Ce n'est pas ce pourquoi a été envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il a au contraire interdit aux musulmans de se diviser tant bien religieusement que mondainement. Même dans les questions mondaines, la religion que porte le musulman dans son cœur est bien plus cher à ses yeux pour qu'il mette un terme à sa relation qu'il partage avec son co-religionnaire, son frère dans la foi, à cause de quelque chose de futile, à cause de quelque chose n'ayant pas la moindre valeur. Cela est de la jahiliya. Et c'était le cas des gens d'autrefois où il y avait deux tribus appelées Al-Aoussou ou Al-Khazraj, qui en réalité sont les noms de deux hommes, Al-Aous ou Al-Khazraj. Et de ces deux hommes sont issus deux tribus portant leur nom. Ces deux tribus, dans l'ère pré-islamique, ont constamment été en guerre. Ils n'ont jamais connu la trêve. Ils n'ont jamais réussi à se réconcilier. Aucun moyen, ni mondain, ni quoi que ce soit, aucun terrain d'entente. Des guerres constantes. Allah Azza wa Jal a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le tawhid. Le tawhid qui est si fort qu'il a fait oublier aux gens toutes ces futilités auxquelles ils étaient attachés et à cause desquelles ils n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente. Ils ont compris le but de leur existence, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mise en garde contre le polythéisme, le suivi d'un homme qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, suite à cette croyance qu'ils ont tous partagée et à laquelle ils ont tous adhéré unanimement, ils ont écrasé sous leurs pieds cette jahiliya qui était la division pour des choses mondaines, pour des questions d'ethnie, d'origine. Ça c'est de la jahiliya, le fait de dire que telle personne vient de tel pays et de la dénigrer pour cette raison, ou alors de se penser plus haut que les autres parce que nous, on vient de tel pays. هذه جاهلية. Ça, c'est de la jahiliya. La personne dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, puis elle dénigre une autre origine que la sienne. Hadihi jahiliya. Ce sont des pratiques qui relèvent de l'ère pré-islamique. Et cette personne n'a pas compris le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salat wa salam, a mis en garde contre le fait de rompre les liens avec son co-religionnaire pour des raisons mondaines. Il dit, لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. Il n'est pas permis à un musulman de rompre les liens avec son frère plus de trois nuits. S'il y a une mésentente, il est permis de marquer une pause dont l'utilité, inshallah, sera de reprendre ses esprits et de rétablir un lien, ne dépassant pas trois jours. Si ce lien, le fait de rompre le lien avec son co-religionnaire dépasse les trois jours, alors c'est une interdiction, c'est un péché, une désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Nous parlons bien évidemment de raisons mondaines, car il y a des raisons religieuses, comme le fait de rompre les liens avec l'innovateur, qui ne sont pas dans le cadre de la question des trois jours. Les novateurs auront les liens avec lui, jusqu'à ce qu'il revienne à la sunna et on met en garde contre lui, son action, son nom, sa personne. Jusqu'à ce qu'il revienne à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la voix du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ. Lorsque vous étiez ennemis, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Il a alors uni vos cœurs. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ. Vous êtes... فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ. Vous êtes devenus par sa grâce des frères. Jusqu'à la fin des versets. Allah Azza wa Jal s'adresse en premier lieu dans ce verset à ces deux tribus que sont les Aous et les Khazraj, qui n'ont jamais trouvé un terrain d'entente. Quand l'islam est arrivé, quand la foi a pénétré leur cœur, quand ils ont compris le but de leur existence, ils sont devenus frères. Subhanallah, ces deux tribus étaient les pires ennemis. Lorsque l'islam est arrivé, ils sont devenus les frères dans la religion qui ont marqué l'histoire de l'islam jusqu'au jour où je vous parle et qui n'auront pas d'égo dans la fraternité qu'ils ont concrétisée. Allahu Akbar. Les pires ennemis, les plus grands frères dans la religion de l'histoire. Qu'est-ce qui a fait cela? Les pires ennemis, plusieurs religions, plusieurs croyances. Les plus grands frères qui ont marqué l'histoire, une seule et même religion, l'unicité d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, sans secte, sans égarement, sans mauvaise croyance, sans innovation, mais seulement Allah a dit, le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'a pas dit, je ne fais pas. S'il a dit, je fais. S'il dit que c'est interdit, je dis que ça l'est. S'il dit que c'est obligatoire, je dis que ça l'est. Wallahi, ayyuhal muslimun, ô musulmans, si les musulmans mettaient en pratique ce simple principe, wallahi, beaucoup de tous les maux que nous constatons dans cette période dans laquelle nous vivons n'existeraient même pas. Car chaque musulman mettant en pratique ces fondements refuserait d'accorder à ces pratiques jahiliya une petite place dans son cœur. Car le cœur doit être rempli par le tawhid, par l'unicité d'Allah, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment quelqu'un portant cela dans son cœur, la plus grande des puretés et lumières, peut laisser une place dans son cœur pour la saleté et la souillure des gens de la jahiliya? Wallahu al-musta'an. Et il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet. Simplement, j'aimerais m'arrêter avec quelques paroles du Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qui, après avoir démontré ces quelques aspects, a dit qu'il faut ici montrer la question de la divergence dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, relevant la divergence, relevant des questions de jurisprudence. Cette divergence qui a lieu et qu'on ne peut pas renier. Tout d'abord, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit que al-ikhtilafu ala qismayn, la divergence est de deux catégories. Al-qismu al-awwal, al-ikhtilafu fi din. Premièrement, la divergence en matière de religion. Kal-ikhtilafi fi al-ibadati wal-aqida, comme la divergence dans les actes cultuels et le dogme ou la croyance. Il va nous montrer que dans cette question-là, il n'y a pas de divergence permise. On ne diverge pas dans al-aqida. On ne diverge pas dans la manière d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Car ces deux choses font partie de ce que l'on appelle al-umur al-tawqifiyya, des choses arrêtées au texte. Nous n'avons pas le droit de dépasser les textes en matière de croyance à adhérer ou d'action à pratiquer. Lorsque je veux, moi le musulman, adhérer à une croyance, lorsque je veux croire qu'Allah est capable de tout, lorsque je veux croire qu'Allah est au-dessus du ciel, lorsque je veux croire qu'Allah me voit, lorsque je veux croire qu'Allah m'entend, je ne le fais que parce qu'en réalité j'ai lu le texte qui me l'a informé. Mais je n'ai pas le droit de faire un effort de réflexion sur moi-même ou d'ouvrir les livres de philosophie d'égarement pour déduire une croyance, en faire une base dans la religion et appeler les gens à suivre cette croyance comme à la manière des gens de l'innovation, anciens et même contemporains. Il n'y a pas de divergence dans al-aqid, al-tawhid, la ilaha illallah, cette parole de tawhid avec tout ce qu'elle implique, n'est qu'un seul et même message, celui de l'ensemble des messagers. Et comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, nahnu ma'ashara al-anbiya, nous sommes, nous, l'ensemble des prophètes, ikhwatun li'allat, des mêmes frères, ayant nous sommes les frères d'un même père et de mères différentes. Il dit ensuite que la religion des prophètes est identique et leur pratique est diverse. Chaque prophète est venu appeler à un seul message. Mais la manière d'appliquer l'adoration d'un prophète diffère de celle d'un autre. Par contre, le but de cette adoration, malgré la différence apparente dans la manière de prier chez l'un et chez l'autre, de jeûner chez l'un et chez l'autre, n'est qu'une seule, c'est d'adorer Allah, de lui reconnaître son droit à l'unicité, à l'adoration seule. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit qu'il est permis de diverger dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a rien à voir avec la croyance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et selon la parole que cette personne va prononcer, elle peut même quitter la religion d'Allah, quitter l'islam. Wal'iyadu billah. De même dans les actes cultuels. Vous êtes venu accomplir la prière du Maghrib et vous vous apprêtez à accomplir celle du Isha. Aucun d'entre vous ici n'a décidé la manière de l'accomplir. Mais il n'a fait que suivre les règles prescrites par Allah relevant de la prière du Maghrib et de celle du Isha. En matière d'action, d'adoration, par lesquelles on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'effort de réflexion ni d'interprétation. Personne n'a le droit de dire « Il me semble qu'adorer Allah de cette façon, selon mon goût, selon mon... j'ai essayé, je me sens bien dans cette action, hada batil mardout. » C'est faux et c'est rejeté, on ne l'accepte pas. Donc dans ce domaine-là, il n'y a pas de division permise, ou pardon, de divergence permise. Le prophète alayhi salatu wassalam a rejeté toutes les innovations. La deuxième divergence, c'est ce que l'on appelle al-ikhtilaf fima lir-ra'y fihi majal. C'est la divergence dans des questions où il est possible d'apporter l'opinion. dans le sens où il existe des questions relevant du domaine de la jurisprudence islamique qui ne font pas objet de l'unanimité entre les savants pour plusieurs raisons, comme le fait que, par exemple, il n'y ait pas une preuve tranchante dans la question, mais plutôt une preuve qui peut prêter à diverses interprétations. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah, nous explique que, selon la profondeur de la science de la personne, la perception qu'Allah lui a donnée, la compréhension qu'Allah lui a donnée, un savant va faire découler de tel texte telle règle, alors qu'un autre va dire non, plutôt ce qui est à comprendre de ce texte-là, c'est telle et telle autre chose. Tant qu'il n'y a pas un texte tranchant, fermant la porte à la possibilité d'avoir plusieurs avis, eh bien, ces questions, dans ces questions, il est possible d'y avoir une divergence. Seulement, le musulman, lui, doit suivre ce qui lui apparaît comme étant la vérité, d'après les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman de la masse ne connaisse rien, applique la parole d'Allah azza wa jal, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas, c'est son devoir. Et chacun, en fonction de son niveau de connaissance, aura un devoir différent de l'autre. Ce qui est voulu ici, c'est simplement de citer qu'il existe des questions relevant du domaine de la jurisprudence islamique, des règles, des actes cultuels où il peut avoir divergence. Ou plutôt, divergence due à un effort d'interprétation qui est possible dans la question. Mais le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah, nous dit que concernant l'effort d'interprétation, il est lui-même en deux catégories. قِسْمٌ ظَهَرَ الدَّلِيلُ مَعَ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِيهِ فَيَجِبُ أَخْذُ مَا عَلَيْهِ الدَّلِيلُ. La première partie, c'est le cas où la preuve apparaît clairement chez l'une des deux parties divergentes, ayant toutes effectué un effort d'interprétation. Mais toi qui arrives et qui vois ces deux diverger, l'un apporte la preuve apparente. À ce moment-là, l'obligation qui incombe aux musulmans est de suivre cette preuve et de s'y attacher, de délaisser tout autre que cette preuve. Car le but du musulman, c'est de suivre la preuve, les textes. C'est d'arriver au final à faire ce qu'Allah veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on retrouve cette parole chez les savants de la sunna. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, a dit « Ida ja al hadith an ar-rasul, sallallahu alayhi wa sallam, fa'ala ar-ra'si wal-ayn. » Si le hadith nous parvient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est alors sur nos têtes et nos yeux. On le considère plus que tout. Il passe avant tout, avant nos avis, nos paroles. « Wa ida ja al hadith an sahabati rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, fa'ala ar-ra'si wal-ayn. » Et si une parole nous vient des compagnons, elle est sur nos têtes et nos yeux. Et si une parole nous vient des tabi'un, la deuxième génération de l'islam, ils sont des hommes et nous sommes des hommes. Que nous dit l'imam Malik, rahimahullah? Il dit, أَوَكُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٌ تركنا ما نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام لجدل هؤلاء. Est-ce que chaque fois qu'une personne va venir à nous, sachant polémiquer plus qu'une autre, nous allons délaisser ce par quoi Jibril est descendu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la polémique de ces gens-là? Là, il nous apprend que dans la religion, on suit les textes. La personne peut avoir le beau parler, l'éloquence, le savoir dans la polémique, mais est-ce que l'on va délaisser des hadiths et des versets pour telle personne qui polémique, pour telle autre qui polémique, pour telle autre qui? Non. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit ajma' al-muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lam yakun lahu an yada'aha li qawli ahadin. Les musulmans sont unanimes pour dire que celui à qui la sunna claire est apparue, il n'a pas la permission de la délaisser pour la parole de quiconque parmi les gens. Imam Ahmed, rahimahullah, a dit « Ajibtu li qawmin arafu l'isnada wa sihata yadhabuna ila ra'i Sufyan. » Je m'étonne de gens qui prennent connaissance d'un récit avec sa chaîne de transmission prouvant son authenticité et qui pourtant suivent la parole de Sufyan, un des imams du hadith, de la sunna, une des montagnes de la sunna. Il dit « Wallahu ta'ala yaqul » فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Alors qu'Allah exalté soit-il dit dans le sens rapproché du verset, que ceux qui contreviennent à son ordre prennent garde à être touchés d'une fitna et atteints d'un châtiment douloureux. Et l'imam Ahmad dit ensuite, sais-tu de quoi il s'agit? Il s'agit du shirk. La fitna dans laquelle la personne qui rejette la sunna va tomber, un shirk. Car il se peut qu'en délaissant quelques-unes des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cœur de la personne périsse et dévie. Wallahu al-musta'an. Donc, les savants ont toujours été unanimes. Ce fanatisme que l'on voit pour les écoles religieuses n'a pas ses fondements, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni chez les fondateurs de ces écoles, qui ont toujours combattu et qui ont toujours dit à leurs élèves et leurs disciples, toute parole venant de moi, contredisant un texte clair, jette-la dans le mur. Quand est-ce que les musulmans qui se sont fanatisés pour une voie d'adoration, de dhikr, une voie de soufisme, pour un maître, pour un shir, pour une personne, quand est-ce qu'ils vont comprendre et appliquer ces fondements qui vont les délivrer des carcans du fanatisme? Qu'Allah Azza wa Jal vous en préserve. Deuxième question, c'est la question à divergence où il y a un effort d'interprétation qui a été fait. Deuxième catégorie, pardon. Mais il n'y a pas une preuve tranchante qui est apparue chez l'une des deux parties. Lorsque c'est le cas, les deux parties ne sont pas blâmées. Il dit القسم الثاني من الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه دليل مع أحد القولين بل كلا القولين محتمل. Les deux de ces paroles ont une éventualité possible. Il est possible que ce soit cet avis, tout comme il est possible que ce soit l'autre. Mais il n'y a pas une preuve qui vient trancher la question. Dans ces questions-là, il n'y a pas de blâme à faire d'une partie à l'autre. Car il y a un effort d'interprétation qui a été fait, mais chacun doit tout faire pour craindre Allah et ne pas suivre un avis par fanatisme, mais par conviction, plutôt. D'où la parole des savants, la inkara fi masa'il al-ijtihad. Nul blâme à faire dans les questions où il y a effort d'interprétation. Et c'est ainsi que s'achève cette deuxième pratique de l'ère pré-islamique. La troisième, l'auteur rahimahullah nous dit « Al-mas'alatu al-thalitha, i'tibaruhum, anna mukhalafata wali al-amri wa adama l'inqiyadi lahu fadila, wa sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahana, fa khalafahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa amara bi sam'i wa ta'a lahu wa nasiha. وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. L'auteur rahimahullah nous dit, la troisième question est la suivante. Chez les gens de l'ère pré-islamique, contredire ou contrevenir aux ordres du gouvernant, du détenteur de l'autorité, et ne pas se soumettre à lui, est une vertu pour eux. C'est quelque chose de bien. Lui obéir et suivre ses ordres est une humiliation et un avilissement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a contredit alors ces gens-là dans cette pratique. Il a ordonné aux gens l'écoute et l'obéissance et le conseil loyal envers le détenteur de l'autorité. Il a fait cela de manière rude et sévère, sallallahu alayhi wa sallam. Il a réitéré et réitéré ses appels, alayhi salatu wa sallam, à obéir aux dirigeants, aux gouvernants, aux détenteurs de l'autorité. Et ça, c'est une des plus grandes bases de la croyance des gens de la sunna. C'est l'interdiction de se rebeller contre le dirigeant. Cette rébellion qui est la source du mal que vivent beaucoup de gens de la communauté en cet instant que je vous parle. Je ne vous dis pas seulement en cette époque, en ce moment même, dans certains pays, qui sont nombreux. Wallahu al-musta'an. Des pays qui vivaient paisiblement. Chacun de ses habitants pouvait sortir acheter son pain en sécurité, sans se soucier, est-ce qu'on va m'atteindre, me tuer, est-ce qu'on va me kidnapper, me cambrioler, est-ce qu'on va me violer pour les femmes. Mais lorsque les musulmans ont désobéi à Allah, tabaraka wa ta'ala, ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est advenu d'eux, et il leur est arrivé ce que l'on constate aujourd'hui. Et ensuite ils se plaignent, alors qu'ils ont désobéi à Allah, tabaraka wa ta'ala, et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas d'adhérer à l'oppression de l'oppresseur, d'accepter l'injustice de l'injuste. Non, il s'agit d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de l'époque pré-islamique, les gens de la jahiliya, pour eux, obéir au gouvernant était une humiliation. Moi, je vais lui obéir. Alors que je suis de telle tribu, de telle famille, alors que j'ai telle et telle chose, je suis plus connaisseur que lui. Et l'on se moque de sa taille, de son poids, de son origine, de sa couleur, de son parler, de son langage. Et d'après ces gens-là, et ceux qui les suivent en notre époque, pour ces raisons-là, on ne peut pas lui obéir. On ne se base plus sur les textes, sur la volonté divine, sur la prescription d'Allah, sur la législation d'Allah, Azza wa Jal. Mais on se base sur les goûts. Pourquoi vais-je lui obéir alors qu'il est malade? Pourquoi vais-je lui obéir alors qu'il est sur un fauteuil roulant? Pourquoi vais-je lui obéir alors qu'il ne s'exprime pas bien? Pourquoi vais-je lui obéir alors qu'il a fait telle et telle chose, alors que telle et telle chose? Là, ce n'est pas pour ça que tu lui obéis. Tu lui obéis parce qu'Allah t'a ordonné de lui obéir. Subhanahu wa ta'ala. Et le mal qui découle de la désobéissance et de la réunion, de la rébellion, est bien plus grave et remarquable que celui duquel tu te plains actuellement. Et tout individu doué de raison revient au texte. Et je vous incite à revenir à Kitab al-Imara de Sahih Muslim, le recueil de récits authentiques de l'imam Muslim, afin de ne pas vous faire tromper par les égarés, les innovateurs, les gens du faux, qui essaient de secouer en vous les émotions, vous distrayant du regard des textes. Accrochez-vous au Coran, accrochez-vous à la Sunna. Ouvrez Sahih Muslim, Kitab al-Imara, et voyez les dizaines et les dizaines de hadiths nous parlant de l'obligation d'obéir aux gouverneurs, même s'ils sont tyranniques, oppresseurs, même s'ils nous frappent et nous pillent nos biens. Car la question est de préserver la stabilité du pays, la stabilité et la tranquillité des musulmans dans leur terre, dans leur pays, cette tranquillité par laquelle ils pourront se rendre à la mosquée pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et non pas sortir de chez eux et ne pas savoir si le missile va tomber dans leur chemin ou si ils vont prendre une balle perdue. Ils prennent des risques, et dans certains pays on creuse même des tranchées, des fossés pour se rendre à la mosquée de peur d'être atteint d'une balle perdue. Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient dans cette situation avant qu'ils ne se rebellent contre les détenteurs de l'autorité? Est-ce que les femmes enceintes à cause du viol étaient dans cette situation avant de s'être rebellées contre les autorités? Allahu al-musta'an. Nas'al Allah 'azza wa jalla an yahdi al-umma wa an yaruddaha ila rushdiha wa an yaruddu kayd al-makirin biha wa hum la yash'urun. Ainsi, on voit ce principe de la communauté de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a dit à ses compagnons, « U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, wa sallu khamsakum, priez vos cinq prières, wa sumu shahrakum, jeûnez votre mois de Ramadan, wa addu zakat amalikum, acquittez-vous de l'aumône sur vos biens, wa ati'u dha amrikum, et obéissez au détenteur de l'autorité, tadkhulu jannata rabbikum. » Vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Vous pensez que le prophète alayhi salatu wassalam aime les injustes, soutient les tyrans? Et bien sûr que non. Seulement, le prophète alayhi salatu wassalam ne parle pas sous l'effet de la passion, ni des émotions. Il parle d'après la révélation qui lui est faite d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il voit loin. Il sait que le mal qui va découler de ces soi-disant marches pacifique et manifestation, comme effusion de sang, comme perte des biens, comme dégradation, comme ébranlement de la stabilité, de la sécurité dans le pays, et comme porte qui s'ouvre à toute personne opportuniste, voulant piller, détruire. Ce n'est pas ce que vous voyez. Si ce que je dis est faux, dites-le-moi. Tout cela à cause de la désobéissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, le prêcheur qui monte sur le mimbar le jour du vendredi pour crier et maudire les gouverneurs est celui qui est, masha'Allah, qui est courageux, alors qu'il fait ça en Europe. Ne fait pas ça chez lui dans son pays. Prends ton courage et va dans ce pays le faire, on verra où tu seras. C'est facile. Hein? Mais ce qu'il faut, c'est suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wasallam. Les gens de la djahiliya avaient ce comportement mauvais. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wasallam nous a ordonné d'agir envers l'injustice du détenteur de l'autorité? Il nous dit alayhi salatu wasallam, man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa al-jama'ata shibra famata illa mata mitatan jahiliya. Le prophète alayhi salatu wasalam dit, quiconque remarque chez le dirigeant ce qu'il déteste, du favoritisme pour certains, de l'injustice et toute autre chose, qu'il endure cela, qu'il patiente sur cela, car celui qui se détache de la société, il se détache, il se rebelle, il incite les autres à se rebeller. Celui qui se détache de la société, ne serait-ce que d'un empan, voici l'empan, l'espace qui sépare le bout du pouce au bout de l'index tendu. Celui qui se sépare de la société, ne serait-ce que d'un empan, et qui meurt dans cet état, sa mort est la mort de la djahiliya. Donc cette action relève de la djahiliya. Et on vous dit, liberté, réussite, je ne sais quoi, blablabla, djahiliya, c'est ça le vrai mot, qu'on le retrouve dans les textes du Coran et dans la Sunna. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, min haythuhum fawda la imam alahum. C'est-à-dire que ils sont, la mort d'une telle personne est comme dans la djahiliya, car dans la djahiliya, ils étaient dans le chaos, dans l'anarchie. Ils n'avaient pas de dirigeant. Le prophète alayhi salatu wasalam dit, man khala'a yadan min ta'a, laqiya Allah yawm al-qiyamati la hujjata lah. Quiconque détache sa main de l'obéissance rencontrera Allah le jour dernier sans aucun argument. il ne pourra pas se défendre. Donc faites attention aux khawarij, ceux qui incitent à se rebeller contre les détenteurs de l'autorité. Et parmi les plus mauvais de cette époque, al-ikhwanul muslimun, ha'oula al-muflisun, les frères musulmans, les khawarij en costard, prenez garde à eux, qui vous montrent de belles paroles et qui incitent à la destruction, le chaos dans les pays. Wal-iyadu billah. Et les musulmans ne doivent pas se faire tromper par cette jahiliya en sortant et en élevant des slogans insensés et en demandant des choses. Subhanallah, au moment où je vous parle, dans un des pays du Maghreb, les gens se lèvent dans la rue et crient. Lorsque toi, le musulman, tu regardes, qu'est-ce que tu vois ? Mixité, pas de voile, des paroles de shirk, des insultes, de la division, l'effusion de sang. Mais avec ça, Allah tabaraka wa ta'ala va vous sauver. Avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala va vous élever. C'est avec ça que vous voulez vivre paisiblement aux musulmans. Et écoutez plutôt ce qu'Allah vous dit, subhanahu wa ta'ala, et ouvrez votre cœur. Il nous dit, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ. Dans le sens rapproché du verset, Allah a fait la promesse à ceux parmi vous qui ont eu la foi et ont fait de bonnes actions, qu'il leur donnera la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera à leur religion force et suprématie. Il changera leur ancienne peur en sécurité. Regardez, tu sors de chez toi, tu vis paisiblement, ta religion apparente, Tawhidullah fi ardillah, le tawhid dans la terre d'Allah, tu ne rêves pas de ça? Ce n'est pas ce que tu veux? C'est possible. Mais avec les ordres d'Allah, Azza wa Jal. Pas avec les ordres des khawarij. Et non pas avec les ordres de ceux qui soufflent dans l'oreille des insouciants, des ignorants, en éveillant en eux leurs émotions, en leur disant, va demander ton droit, va demander ton pain. Akhi, demande ton tawhid. Demande le shirk, qu'il soit repoussé. Demande que la bid'a soit repoussée. Demande à pouvoir pratiquer ton tawhid. Apprends les droits d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Regarde si chez toi il n'y a pas du shirk, il n'y a pas de la bid'a, il n'y a pas. La maison de beaucoup de gens est remplie de shirk, de perversion, de bid'a. Tu sors dans la rue, tu veux réformer? Réforme ta maison. Réforme ton être. Réforme les gens autour de toi. Instruis-toi dans ta religion. Instruis les gens autour de toi. Transmets la parole d'Allah. Corrige les erreurs. Rudd al-batil. Et vous allez voir comment Allah va vous élever, ô musulmans. Mais suivre des sentiments et des émotions n'est rien de plus facile. Tayyib, depuis combien de temps on assiste à ces rébellions, à ces marches, à ces manifestations? Où est le résultat? Où est le résultat voulu? Il est atteint? Qu'est-ce que l'on constate? Le chaos des pays magnifiques détruits. Des gens qui vivaient paisiblement, vivant dans l'insécurité. Divorcés, veufs, plus d'enfants, plus rien. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam nous interdit ces pratiques. Il nous interdit ces croyances. Et nous enseigne que cela vient de la jahiliya. Et ces actions sont de la jahiliya. Qu'Allah azza wa jalla nous guide et guide les musulmans. Pour ces raisons, les gens parmi les savants de la sunna en ont fait un fondement. Et ils ont dit, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلْ يَدْعُوا لِلسُلْطَانِ فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُنَّةِ. Si tu vois l'homme invoquer Allah pour le dirigeant, sache qu'il fait partie des gens de la sunna. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلْ يَدْعُوا عَلَى السُلْطَانِ فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةِ. Et si tu vois l'homme invoquer Allah contre le détenteur de l'autorité, sache qu'il fait partie des gens de l'innovation. Et l'imam Ahmed rahimahullah a dit: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلته للأمير. Si j'avais su qu'une de mes invocations voyait son exaucement garanti, je l'aurais réservé au dirigeant. Pourquoi? Parce que le dirigeant, s'il est réformé, la communauté va être réformée. Et l'adoration d'Allah Azzawajal va se répandre dans la terre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc regardez comment il voit loin et prenez garde à ceux qui ne voient qu'ici. Mais après qu'ils voient tout ça avec leurs yeux. Wal'ayyadu billah. Et ces trois questions-là, nous dit l'auteur, rahimahullah, وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. L'auteur rahimahullah nous dit ces trois questions, c'est-à-dire les trois premières questions du livre. La première, le shirk, les intermédiaires entre Allah et le serviteur. La deuxième, rappelez-la-moi, la division. Et la troisième, le fait de croire que obéir au détenteur de l'autorité est un avilissement. Ces trois questions-là, nous dit l'auteur, rahimahullah, ont été réunies dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, Allah agrée pour vous trois choses. Que vous adoriez Allah sans rien lui associer. Donc, ça implique le rejet de la première chose. Que vous vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah sans vous diviser. Ça rejette la division. Et que vous portez conseil à ceux parmi vous à qui Allah a donné l'autorité sur vous. Ça rejette la troisième. L'auteur nous dit ensuite, et dans la religion, tout comme dans la vie mondaine des gens, on ne voit de défaillance que à cause d'une défaillance dans l'une de ces trois choses. Ya subhanallah. Si tu médites bien dans la religiosité ou là dans la religion des gens, ou dans leur vie d'ici-bas, ce qui leur arrive comme chose mauvaise est dû à la défaillance dans l'une de ces trois choses-là. Soit shirk, soit la division. N'est-ce pas la division qui crée les meurtres, les guerres, qui crée toutes ces choses qui vont engendrer la pauvreté, la famine, la maladie. Et l'islam a chassé ces choses-là. Et la troisième chose, c'est la rébellion contre les détenteurs de l'autorité qui provoque l'effusion de sang et qui engendre tous ces maux. Mais lorsque ces choses arrivent, dans ces pays par exemple, lorsque ces choses arrivent, vous pensez que les habitants de ces endroits sont stables dans leur tête? Ils peuvent penser au livre d'Allah, à lire le livre d'Allah Azzawajal, à faire du dhikr sans être dérangé par des soucis, par des inquiétudes, par des paniques. Je ne sais pas si on va dévaliser ma maison, je ne sais pas si on va m'attaquer. Et toutes ces choses-là distraient les personnes de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le but de notre création. L'insécurité et toutes ces choses-là font dévier les gens du but et les occupent du but pour lequel ils ont été créés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'on voit que ces trois points-là ont un lien inséparable et qu'il faut les appliquer. Car on ne peut appliquer correctement et sereinement l'adoration d'Allah pour laquelle nous sommes créés, subhanahu wa ta'ala, sans union. Si on est unis, on peut appliquer. Mais si l'on est désuni, on ne peut pas. Et lorsqu'il y a beaucoup de troubles qui touchent la communauté, des troubles aveugles, où la personne ne voit pas le bout, où la personne ne sait pas où est la vérité, les gens sont occupés. Ils sont distraits de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم أي أن قلب المسلم لا يحمل شيئا ضد هذه الأمور الثلاثة. Il existe trois choses pour lesquelles le cœur du musulman n'éprouve aucune rancœur, aucune haine. La sincérité de l'action pour Allah, ça c'est l'adoration d'Allah, Azza wa Jalla. Le conseil porté aux dirigeants musulmans et l'attachement à la société musulmane. Et ces trois choses rejettent ces trois actes de l'époque pré-islamique. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidahullah, dans son explication, cite la parole du prophète alayhi salatu wassalam répondant aux compagnons qui lui demandent comment agir lorsque les tyrans apparaîtront. Il dit « Ati' wa in akhada malak wa daraba dhahrak » Obéis-lui même s'il pille tes biens et frappe ton dos. Même s'il pille tes biens et frappe ton dos. C'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit « لأن في طاعته مصلحة أرجح من المفسدة التي هو عليها » Car dans l'obéissance de ce tyran, il y a un intérêt qui prime sur le préjudice découlant ou sur le préjudice existant. Il y a un intérêt qui prime le fait de t'asseoir sur ton droit, de patienter sur cela, va préserver en général la société. Mais si chacun parmi les individus décide de ne pas s'asseoir sur son droit, de ne pas endurer, de ne pas patienter, chacun se lève les uns après les autres, c'est tous qui vont subir. Et même ceux qui n'ont pas pris part à leurs actions, ils vont tous subir. Et s'ils ne le subissent pas physiquement directement, ils vont le subir économiquement. Les prix des ingrédients vont monter. Et n'est-ce pas que c'est ce que l'on constate ? Et ensuite, ils vont dire que tout est devenu cher, que c'est à cause de tel et tel que les prix ont augmenté. Mais quand tu médites bien, la raison de cela, c'est ces rébellions que l'on constate. Et le Cheikh Al-Fawzan nous dit « وَلِأَنَّ مَفْسَدَةَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ الْبَقَاءِ عَلَى طَاعَتِهِ وَهُوَ عَاصٍ » Et le préjudice découlant de la rébellion contre lui est pire que le préjudice subi en lui obéissant, malgré le fait qu'il soit désobéissant d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ فِي الْخُرُوجِ عَلَيْهِ سَفْكًا لِلْدِمَاءِ وَإِخْلَالًا بِالْأَمْنِ وَتَفْرِيقًا لِلْكَلِمَةِ Car en sortant contre le détenteur de l'autorité, il y a effusion de sang, ébranlement de la stabilité ou sécurité et division des gens. Et c'est, le Cheikh Fawzan nous dit à l'époque où il écrit ce livre, et c'est ce qui s'est passé et qui a été subi à travers l'histoire par ceux qui se sont rebellés contre l'autorité. Et le présent est le meilleur des témoins. Wallahu al-musta'an. Le chômage, plus de travail, la pauvreté qui pousse les gens au vice, à piller, à voler, à mentir, à trahir dans les mu'amalat, dans les interactions, l'insécurité, le viol, les pots de vin, pour arriver à quelque chose à cause de ce chaos, pour arriver à un poste, pour arriver à avoir obtenir un document, un papier, il faut payer. Tout cela, c'est ce qui découle de ces choses-là. Wallahu ta'ala al-musta'an wahdahu la sharika lah. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك